Merci beaucoup pour cette excellente introduction. Je suis aussi content de voir le simplifier Bruxelles. Déjà, ça va pas être facile quand je vois ça pèse quand même. Donc, effectivement, on a déjà référé à ma double identité, si je puis dire, hein, et donc elle sera aussi, comme vous le voyez déjà sur le premier slide, sur le titre, reflétée dans présentation ou cette réflexion que je vais faire pour initier un petit peu aussi la discussion et le débat. Bon, comme je disais, effectivement, j'habite toujours à Anvers, hein, mais on peut avoir un lien, pourquoi pas, avec deux villes. Et dans le débat sur la décentralisation à Bruxelles, et notamment sur le rôle des communes et des zones de police, on fait quand même parfois référence aussi à la situation anversoise. Des références qui sont faites, des références différentes selon le positionnement qu'on a dans le débat bruxellois. Donc certains vont dire pourquoi est-ce que Bruxelles a besoin de 6 zones de police et de 19 communes. Regardez, à Anvers, ça marche quand même très bien en intégrant tout. D'autres diront mais regardez, à Anvers, là on a fusionné et finalement on est revenu de cette fusion, donc vous voyez bien que ça marche quand même pas très bien et que voilà, les structures plus locales ou sous-communales sont quand même ou sous-régionales à Bruxelles sont quand même importantes. Donc je vais essayer un petit peu d'abord peut-être de vous expliquer un petit peu aussi le modèle anversois actuel avec les districts et aussi l'histoire derrière. Je vais commencer avec cela parce que j'ai déjà remarqué que notamment à Bruxelles ou du côté francophone, le modèle anversois n'est pas très connu, hein, même pas chez les gens qui sont d'une façon ou d'une autre professionnellement occupés avec les matières institutionnelles. Et finalement, comme vous voyez un peu dans le titre aussi, hein, donc je vais quand même aussi plaider, hein, parce que c'est aussi le but quand même ici de donner une opinion et de donner sa vision sur les réformes qui pourraient être intéressantes ou même nécessaires. Même si je vais en même temps être assez critique sur le modèle anversois, et en fait, je vais en fait dire que c'est pour moi pas vraiment l'idéal, je vais quand même en même temps aussi dire que le modèle anversois serait génial pour Bruxelles. Donc, ça peut paraître paradoxal, mais normalement, à la fin de la présentation, ça devrait être clair qu'il n'y a pas nécessairement un paradoxe. Bon, un peu d'histoire, parce que c'est quand même important dans ce débat, surtout vu les arguments qui sont parfois donnés, hein, sur, Anvers, on a essayé, on est revenu, etc. On a la fusion des anciennes communes à Anvers en 1983. C'est 6 ans plus tard que la fusion généralisée en Belgique. À Anvers, on veut toujours être un peu spécial, et donc il y avait quand même aussi quelques difficultés à Anvers pour vraiment réaliser cette fusion. En 1983, Anvers devient officiellement la plus grande commune du pays, hein, en tout cas en termes de population, puisque hein, Bruxelles, il n'y a pas de fusion, donc près d'un demi-million d'habitants. Et déjà au premier conseil communal de ce nouveau grand Anvers, hein, aussi appelé dans le temps comme ça, on voit déjà qu'il y a quand même déjà certaines frustrations avec la nouvelle situation. Tout le monde n'est pas extrêmement content. Il y a notamment cette phrase du bourgmestre anversois de l'époque, Bob Coles, qui disait « En fait, maintenant, Anvers est devenu trop grand pour les petites choses, et en même temps, Anvers est toujours trop petit pour les grandes choses ». Donc, on avait le sentiment qu'avec cette fusion, il y avait un écart trop grand. Ça se reflétait déjà à ce moment-là dans les débats. Pas chez tout le monde nécessairement, mais c'est certain en tout cas qu'il y avait un trop grand écart entre la ville et le terrain et les citoyens. En même temps, on avait aussi le sentiment que la fusion n'était pas complètement complète et que pour un nombre d'autres compétences et aussi pour résoudre la situation financière à ce moment-là encore très pénible, c'était surtout ça qui jouait aussi. Anvers était toujours trop petit et que certaines communes avoisinantes, qui sont toujours aujourd'hui des communes autonomes, auraient mieux été intégrées à Anvers également. Ça, c'est un peu le débat sur la région urbaine qu'on connaît d'ailleurs aussi à Bruxelles et qui est aussi important dans tout ce débat, tant à Anvers qu'à Bruxelles. Alors, que fait-on initialement? On crée une sorte de proto-décentralisation. Il n'est plus possible de vraiment attribuer un pouvoir de décision au niveau des districts, parce que c'est constitutionnellement aussi impossible. Quand on lit l'article 41 de la Constitution, à ce moment-là. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on garde les maisons de district pour les services aux citoyens. Et on crée aussi des conseils et des bureaux, mais pas directement élus. Donc c'est les groupes des partis au niveau du conseil communal qui décident qui siégera dans ces conseils. Et donc finalement c'est simplement les partis politiques à Anvers qui décident. Et bon, comme vous pouvez l'imaginer, généralement c'est pas nécessairement où le personnel n'est pas nécessairement choisi pour ses capacités politiques en premier lieu. D'ailleurs, des personnes avec des capacités politiques, ce n'est pas nécessairement intéressant d'être à ce moment-là dans un tel conseil. Il y avait aussi une personne du conseil communal par groupe qui siégeait aussi d'ailleurs au conseil des districts. Et la composition était basée sur les résultats électoraux au niveau d'Anvers. Donc, même si dans différents districts, il y avait quand même des résultats différents et des différences idéologiques qui se marquaient, ou politiques, ou de partis, en fait, la composition était la même partout. C'était basé sur les résultats globaux pour Anvers. Alors cette situation crée beaucoup de frustration, notamment chez les gens qui sont toujours actifs au district. Ils ont le droit de donner des conseils, mais en fait personne ne leur demande des conseils. Et quand ils donnent des conseils, ils ne sont pas nécessairement très écoutés. Et donc notamment au niveau des districts, les gens qui sont actifs là sont assez frustrés. En même temps, il y a aussi quand même le sentiment au niveau de la ville que ces districts, comme ils existent à ce moment-là, ne remplissent pas vraiment leur fonction d'antenne, parce que ça, c'est un peu la philosophie à ce moment-là, de dire les gens qu'on met dans les districts, ils doivent un peu nous dire ce qui se passe, ce qui ne va pas bien, au niveau très local, et comme ça peut être intégré dans la politique de la ville. Mais en fait, des deux côtés, on n'a pas vraiment l'impression que cette fonction que ça marche bien. Alors, à partir des années 90, il y a de plus en plus un débat sur une vraie décentralisation. Et là, il y a aussi la montée du Vlaams Blok, notamment à partir des élections communales de 1988, qui entre un peu dans le débat et qui est perçu comme par beaucoup de commentateurs, mais aussi par beaucoup d'acteurs sur le terrain. La montée du Vlaams Blok est associée un peu aussi à cette dynamique de fusion qu'on a connue dans les années 80. C'est aussi dans le cadre plus large d'une analyse qui est souvent faite aussi au niveau flamand et aussi au niveau international, du vote d'extrême droite comme un reflet d'un fossé entre le citoyen et la politique. Le citoyen aurait le sentiment que la politique est trop éloignée, que les politiques ne l'écoutent pas, etc. Et donc cet argument-là est très fortement utilisé et intégré dans le débat anversois sur la décentralisation, et on se dit pour contrer le Vlaams Blok, il faut à nouveau combler ce fossé, et la meilleure manière de combler ce fossé, c'est de à nouveau quand même renforcer ces districts dont les structures sont toujours là, notamment aussi en ayant une élection directe, en ayant un vrai collège, en ayant de vraies compétences et de vrais moyens financiers, donc en créant vraiment, en recréant, si on peut dire, un nouveau niveau. Et alors ce qui est assez surprenant quand on relit un petit peu l'histoire de cette décentralisation à Anvers, c'est que dans une période de 6 ans, en fait, la législature communale de 1994 à 2000, on réussit donc en 4 dans le cadre des négociations pour le nouveau collège municipal à Anvers. On décide qu'il y a un consensus entre les différents partis pour effectivement essayer de développer une telle décentralisation. Il faut dire aussi, un élément important là-dedans, c'est aussi qu'à partir de 1994, la coalition traditionnelle anversoise qui a régné pendant des décennies de socialistes et de chrétiens démocrates est brisée, justement aussi à cause de la montée du Vlaams Blok, hein, parce que tous les autres partis doivent s'allier pour encore avoir une majorité. Et donc on a 5 partis dans la majorité anversoise en 1994. Et il y a notamment aussi les écologistes qui entrent, les écologistes qui ont toujours été très critiques envers la fusion, très, très pour la décentralisation. Même chose plus ou moins pour les libéraux et la Volksunie. Et donc ça fait aussi que cette idée de décentralisation, soudainement, politiquement, devient beaucoup plus réalisable. Et donc on décide en 1994 au niveau anversois qu'on veut donc qu'on veut décentraliser. Mais bon, il y avait quand même beaucoup d'obstacles à des niveaux à d'autres niveaux politiques. Il y avait notamment le fait qu'il fallait une révision constitutionnelle. C'était le premier problème, une révision de l'article 41 qui stipule que les compétences qui ont attrait à la commune doivent être exercées par le niveau communal. Donc là, il y avait déjà un problème. Et donc il fallait convaincre les partis flamands, le leadership flamand des partis, et bien sûr aussi les partis francophones. En plus, il fallait aussi je ne vais pas entrer dans les détails, mais un léger transfert de compétences aux régions, et ensuite des lois nationales et des lois régionales devaient être aussi adoptées. Et donc certains qui étaient autour de la table à Anvers en 1994 et qui n'étaient pas nécessairement favorables à la création des districts, notamment les socialistes qui avaient toujours le pouvoir à la ville, ne voyaient pas nécessairement... Enfin, ils étaient aussi un peu divisés sur la question. Il y avait aussi l'analyse sur le Vlaams Blok et tout ça qui jouait ce jeu, mais disons que ils n'étaient pas les plus enthousiastes. Et probablement certains se sont dit, bon, ça, c'est pas très dangereux de mettre dans l'accord ici à Anvers qu'on va créer des districts, puisque le temps qu'on ait convaincu les francophones et qu'on ait changé la constitution, on va bien voir où ça va nous mener. Mais alors, comme vous pouvez le voir, le 11 mars 1997, la révision est adoptée au Sénat à ce moment-là. Suivent très vite le transfert de compétences, la législation nationale, la législation régionale. Et qu'est-ce qui se passe en 2000, donc la prochaine élection déjà, on a directement déjà une élection directe des districts. Dans les débats d'ailleurs, tant au niveau national qu'au niveau du Parlement flamand, on revoit aussi beaucoup revenir comme argumentaire pour cette décentralisation. On voit revenir l'argument du fossé entre citoyens et la politique, l'extrême droite, etc. On voit quand même que c'est très fortement présent dans la logique. Et donc, en fait, on fait tout ça, on change la constitution, etc., finalement, que pour un dossier anversois. Bien sûr, les changements sont plus globaux, hein, donc concrètement, on décide que toutes les communes avec plus de 100 000 habitants peuvent organiser une décentralisation. Mais en fait, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que Anvers qui a décidé d'effectivement le faire, c'est le but initial. En Flandre, il y a encore 2 autres villes qui pourraient aussi décentraliser, qui pourraient aussi créer des districts, c'est Gand et Bruges, mais là on a décidé de ne pas le faire. Et du côté wallon et bruxellois, mais bon, là, la question se pose moins, quoique pourquoi pas encore un niveau en plus. Mais au niveau wallon, on n'a même pas traduit la législation, enfin, même pas adopté la législation régionale nécessaire pour pouvoir, créer des districts dans certaines villes. Donc, on voit que c'est vraiment que à Anvers. Et ça, c'est aussi intéressant pour voir maintenant que même entre-temps, 15-16 années plus tard, hein, si vraiment ce modèle anversois comparé par exemple à une ville comme Gand, certes beaucoup plus petite, mais quand même, si ça a vraiment créé d'autres dynamiques ou eu d'autres effets positifs, soit négatifs. Alors, pour terminer avec la partie historique, on voit donc que qu'il y a une élection directe. Je vais aller plus en détail sur l'organisation concrète. Mais dans la formation de coalition, on voit quand même que c'est largement dirigé par les partis au niveau de la ville et que généralement, on essaye de copier le plus que possible, mais ce n'est pas toujours possible, la coalition qui gouverne la ville d'Anvers dans les différents districts. Hein. C'est comme au niveau fédéral et régional, tout le monde le sait, quand on a une situation symétrique, en fait je devrais dire congruente, c'est toujours plus facile pour gouverner du point de vue des partis, bien sûr. Et donc c'est ce qu'on essaye finalement de faire aussi à Anvers, quand on forme la coalition anversoise, d'aussi en même temps essayer de faire des deals pour les différents districts. Et donc on voit que même si les résultats sont quand même assez différents, en grande partie, ce sont largement les mêmes partis qui sont au pouvoir. C'est pas toujours le cas. Il y a aussi le problème que dans certains districts, il y a certains partis qui font des cartels et pas au niveau anversois. Donc ça crée quand même des différences. Mais on essaye de maîtriser justement cela. Ce qui est un peu paradoxal parce que si on veut vraiment avoir une vraie décentralisation, on doit aussi bien sûr pouvoir avoir des majorités différentes. C'est ce qui se passe déjà plus en 2012. C'est pas que là, soudainement, on a découvert qu'on aime beaucoup plus la décentralisation et toutes ses conséquences concrètes qu'avant. Mais notamment à Borgerhout, au district de Borgerhout, se passe quelque chose à laquelle on ne s'était pas attendu au niveau de la ville. Hein, et c'est donc une coalition en fait complètement différente qu'au niveau anversois. Hein, donc, comme vous le savez probablement, au niveau anversois, on a la coalition d'ailleurs aussi flamande et fédérale du côté flamand, hein, de NVA, VND et CDNV. Enfin, en fait, c'est surtout la NVA et quelques miettes pour les deux autres. Tandis qu'à Borgerhout, on a une coalition du SPA, de Groen, du PTB, et soutenue encore par un ex-CDNV qui s'est détaché de son parti, et voilà, qui tendait déjà beaucoup plus à gauche aussi. Et donc, pour la première fois, on a quand même une asymétrie assez forte, et donc c'est aussi une situation assez intéressante pour le modèle anversois, pour voir voilà, comment est-ce que ça marche, etc. Au début, on s'attendait à beaucoup de conflits. Pour l'instant, ça semble pas vraiment être le cas, mais bon, si 2018 s'approche, ça pourrait être plus le cas. On a aussi dans d'autres districts, par exemple le district d'Anvers où j'habite moi-même, il y a aussi une coalition assez spécifique de NVA, VLD et Groen. Et c'est aussi, tu suivis ça, c'est un peu aussi devenu une actualité flamande, peut-être nationale, au niveau de Deurne, la coalition qui existait, qui était une copie de la coalition anversoise, a perdu sa majorité, et là aussi, on a intégré Groen à une coalition NVA, VLD, CDNV. Donc on voit quand même que cette fois-ci, il y a plus d'asymétrie en tout cas. Ce qui est peut-être intéressant aussi à pointer ici, c'est qu'en 2012, dans la campagne électorale, la NVA se montrait un grand fan des districts et voulait très fortement renforcer les districts, tant au niveau des compétences que du financement. Alors depuis, on n'en a plus rien entendu, et probablement la situation de Borgerhout n'a pas aidé, mais ce qui joue aussi plus fondamentalement, c'est bien sûr la dynamique qui existait avant chez les socialistes, et notamment chez Patrick Jans, aussi très peu enthousiaste sur les districts. C'est que voilà, si on gouverne, si on est au niveau de la ville, qu'on gouverne là, on n'a pas nécessairement intérêt à renforcer d'autres niveaux, surtout où il y a peut-être d'autres partis, où vous avez placé peut-être aussi du personnel politique dans lequel vous ne faites pas toujours trop confiance. Voilà, donc ça en ce qui concerne un peu l'histoire, quand même assez importante, je vais aussi un peu y revenir plus tard. Alors, quelques mots sur le fonctionnement concret de ces districts, je vais aussi regarder le temps. Bon, là vous avez un tableau avec les différents districts, le nombre d'habitants, bon c'est en anglais, la surface, le nombre de conseillers et le personnel. Comme vous le voyez, les districts sont assez différents, notamment en termes de surface et en termes de nombre d'habitants. Hein. Donc, par exemple, le district d'Anvers, qui est le district central, si on peut dire, hein, dépasse de loin en termes de nombre d'habitants beaucoup de communes en Belgique. Deurne est assez grand aussi, et là, on voit que ça diminue assez fortement. Le district d'Anvers a d'ailleurs aussi un problème de visibilité, dans le sens où il y a le district d'Anvers, il y a la commune d'Anvers, et en plus il y a la province d'Anvers. Et donc, par exemple, le jour des élections, j'allais voter, mon voisin revenait, il était juste allé voter. Et même si c'est quelqu'un qui suit quand même assez bien la politique, il me disait, oui, alors donc, j'ai dû voter pour trois trucs là, et donc c'était trois fois Anvers. Et donc la province, je connais, la ville, je sais ce que c'est, mais alors il y avait un troisième truc, c'est quoi exactement? Ah oui, ça c'est le district. Ah oui, on a un district ici aussi. Donc, voilà, c'est pas toujours, la visibilité n'est pas toujours très claire, notamment pour Anvers, c'est un peu différent pour les autres. Alors, comment est-ce que le système fonctionne? Finalement, le système est très proche du système municipal. En termes de... Donc, ça fonctionne avec un conseil, avec un collège, etc. La législation nationale prévoit qu'on peut avoir le 2/3 du nombre de conseillers et de membres de collège qu'aurait une commune avec le même nombre d'habitants. Hein, donc, dans ce sens-là, c'est quand même un peu limité en termes de personnel politique. Pour les membres du collège, il y a un maximum de 5 aussi, hein, donc ça ne peut jamais dépasser 5. On peut logiquement pas cumuler, comme c'était un peu dans le passé avec la proto-décentralisation, un mandat de conseiller communal et de conseiller de district. Et alors ce qui est assez intéressant, c'est quand même une différence sensible, on pourrait dire, c'est que l'élection se passe sur base du système d'Hondt, tandis qu'au niveau communal, hein, c'est le système impériali. Système impériali qui est un peu plus intéressant pour les grands partis. C'est pas complètement une coïncidence, on l'a jamais dit officiellement, mais clairement il y avait aussi ce qu'on fait, on a créé les districts pour contrer le Vlaams Blok, mais en 2000, entre temps, le Vlaams Blok était devenu si grand qu'on commençait à avoir peur que les districts pouvaient justement renforcer le Vlaams Blok dans le sens où ils pourraient avoir une majorité dans certains districts spécifiques. Hein. Et d'ailleurs, à Deurne, ça a presque été le cas. À Hoboken, on a dû faire une coalition aussi soutenue par le PTB parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens. Et donc, le système d'Hondt, ça permettait quand même de diminuer un tout petit peu le risque que le Vlaams Blok ait la majorité des sièges à un certain moment. Alors, le système administratif, il y a un personnel propre au district, mais il est assez limité, et il y a une intégration très forte dans l'administration municipale. Ça aussi, c'est quand même assez important à noter. Ça crée des tensions entre les districts, et le personnel politique et l'administration municipale. Il n'y a pas vraiment un grand amour entre les deux. L'administration municipale n'aime pas trop les districts, et inversement. Et en termes de financement, il y a des dotations de la ville, et aussi parce qu'ils ont aussi une grande partie des compétences culturelles, aussi des subsides de la communauté flamande pour spécifiquement pour cela. Alors les compétences peuvent être définies par les communes, hein, c'est comme ça qu'on a créé le système au niveau national. Il y a aussi quelques exclusions déjà définies initialement, donc le budget communal, les taxes, le personnel et la police, c'est quand même assez important aussi dans le débat qui nous intéresse aujourd'hui, peuvent pas être, même si la commune déciderait à un moment de vouloir le faire comme ça ne peut pas être décentralisé au niveau des districts. Il y a une compétence aussi automatique pour les districts et complète, c'est le registre civil. Et alors, il y a, et ça c'est la décision qu'on a faite aussi au niveau anversois, de donner les compétences suivantes aux districts, où ils ont un pouvoir de décision autonome, mais la plupart des compétences sont partagées avec la commune. Donc il y a le domaine public, il y a la culture, festivités, événements, marché, jeunesse, personnes âgées, sport, association, circulation, communication, concertation locale, et quand même aussi des aspects de la politique de sécurité, mais non pas la police en tant que telle. Et donc, par exemple, les, les, les grandes infrastructures sportives, ça, c'est, ça reste bien sûr au niveau de la commune, mais le, la promotion du sport, etc., le soutien aussi pour les associations très locales, sportives ou culturelles, hein, ça par exemple c'est au niveau des districts. Les districts ont aussi des compétences consultatives sur tout ce qui concerne le district, c'est assez logique, et un pouvoir d'initiative envers le conseil municipal, donc ils peuvent mettre à l'agenda à un certain moment un certain dossier dont ils trouvent qu'il est pertinent pour, voilà, pour le district et qu'on devrait en parler au niveau de, d'Anvers comme, comme ville. Voilà, donc généralement on peut dire que les compétences sont restées assez limitées, hein, c'est pas des, voilà, des compétences très très importantes, et aussi un autre enseignement c'est quand même qu'elles, voilà, qu'elles sont très partagées aussi avec le niveau de la ville, hein, donc c'est pas très, c'est pas fortement différencié. Alors si maintenant on va partir un peu plus normative, on essaie d'évaluer le système anversois, notamment le système des districts qui existe depuis 16 ans, mais en fait aussi plus largement les évolutions depuis la fusion de 1983, est-ce qu'on a maintenant aujourd'hui, hein, une gouvernance plus effective ? Je crois qu'on peut dire qu'on a une gouvernance plus effective en comparaison avec Anvers pré-fusion, même si je ne dis pas nécessairement que c'est la fusion qui est le facteur qui explique le plus cette amélioration. Je crois qu'il y a, il y a d'autres éléments qui ont joué aussi. Il y a aussi un élément financier très clair qui est qu'à partir des années 90, bien sûr, on renforce le financement des grandes villes, tant à travers le niveau flamand que le niveau fédéral. Ça aussi, ça a à voir, bien sûr, avec la montée de l'extrême droite. Il y a aussi des évolutions plus générales qu'on voit aussi dans d'autres villes comme Malines ou Gand, etc., où on voit des tendances similaires. Et on voit notamment, quand même, ça c'est surtout à partir des années 90 et des années 2000, une gouvernance urbaine renforcée, en fait, au niveau communal. Une plus grande professionnalisation au niveau de la ville d'Anvers, une dépolitisation aussi quand même assez forte qui commence déjà dans les années 90 à partir de l'échevin VLD dans le temps qui était responsable, qui est maintenant d'ailleurs chez la NVA, et après ça continue aussi sous Patrick Janssens qui a en fait quand même au sein de son parti duquel il s'est souvent un peu, enfin graduellement distancié, on n'a pas toujours apprécié, mais il a fortement aussi diminué la politisation très forte qui existait à Anvers, notamment dans l'administration, est largement dominée par, en premier lieu, le Parti Socialiste, deuxième lieu, les chrétiens démocrates, qui avaient été au pouvoir depuis très 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 longtemps. Il y a aussi une focalisation importante qu'on voit aussi dans d'autres villes, notamment en Flandre, sur le développement urbain, donc développement d'une politique de mobilité urbaine, mais aussi développement urbain en termes de développement de parcs, de grands bâtiments, etc. Et quand on lit, par exemple, les rapports du Visitas y Commissis Stedenfonds, hein, donc c'est le rapport de la commission de visitation du fonds qui renforçait financièrement aussi les villes, hein, parce qu'on ne voulait pas simplement donner de l'argent, on voulait aussi voir ce qu'ils en font. C'est notamment, donc là, la commission dit clairement qu'Anvers a fait beaucoup de bons en avant, notamment depuis le début des années 90, et c'est notamment, hein, parce que c'est pas non plus que j'imagine ça ou que c'est ma propre opinion, c'est notamment ces éléments-là qui sont pointés comme les éléments qui peuvent expliquer que la gouvernance de la ville s'est améliorée. Alors, est-ce qu'il y a une gouvernance plus effective depuis la décentralisation ? Et là, c'est plus personnel parce qu'en fait, c'est plus une évaluation personnelle dans le sens où, enfin, je me suis basé sur certains éléments, mais il n'y a pas de grandes études ou de grandes recherches sur la question. Il y a certains rapports, il y a certaines études spécifiques, mais je vais en parler. Mais moi, je n'ai pas l'impression que la décentralisation a nécessairement créé une situation complètement différente ou créer une gouvernance plus effective. notamment parce que les compétences sont très limitées et aussi assez diffuses, hein, comme on l'a vu. Alors on pourrait dire, alors donc le débat actuel, on pourrait dire, voilà, mais alors renforçons justement les compétences et le financement, etc., hein, ce qui est un peu le point de vue de la NVA jusqu'à ce qu'elle accède au pouvoir au niveau d'Anvers. Mais si on ferait ça, hein, je crois qu'il y aurait quand même deux grands problèmes qu'on créerait et qui sont un peu les problèmes, je crois, qu'on voit aussi souvent à Bruxelles, justement. Parce que ça, là, il y a quand même aussi un paradoxe intéressant, le programme électoral de la NVA au niveau d'Anvers, de dire il faut renforcer les districts, plus de compétences, voilà, c'est important pour la démocratie. En fait, ce qu'ils voulaient, c'est un peu qu'Anvers ressemble un peu plus à Bruxelles, parce que c'est cette logique-là. Si on renforce vraiment de plus en plus les districts, ça commence à ressembler de plus en plus aux communes bruxelloises. Bon, pas au même niveau, puisque ça reste des communes à Bruxelles et que enfin, ce serait des districts, mais enfin, y a un peu un paradoxe aussi dans la pensée de la NVA sur la question. Mais bon. Y a un problème de spillover. Hein. Si par exemple, sur le domaine culturel ou sportif, on dit, voilà, on va aussi vraiment là encore plus décentraliser les compétences, les grandes infrastructures, etc. Bon. Finalement, quelle est la logique, hein, dans le sens où, bien sûr, si par exemple on crée une piscine olympique dans un certain district, bon, ça va attirer les gens aussi des autres districts, logiquement. Ce serait même une bonne chose. Est-ce qu'on va dire non, c'est que pour les gens du district? Non, c'est bien sûr ridicule. Est-ce qu'on va les faire payer plus? Ça semble quand même assez difficile. Donc il y a une intégration quand même assez forte sur beaucoup de compétences qui sont maintenant chez la ville, où on peut se demander, voilà, quel serait l'impact. Je crois pas nécessairement un impact positif, hein, si on les décentraliserait. Plus important, c'est l'aspect coordination. Hein. Quand on veut développer sur différents terrains une politique urbaine, l'important à ce moment-là, c'est de pouvoir avoir une coordination assez développée et de pouvoir mener cette politique sur tout le territoire urbain. Par exemple, à Anvers, on a à certains moments apporté assez d'importance au fait d'avoir une uniformisation des voies de circulation pour rendre les rues plus lisibles. Hein. Vous voyez notamment les pistes cyclables qui sont dans la même couleur. Les districts, vu aussi que ce n'est pas des niveaux assez importants, sont directement allés dans la même logique. Et effectivement, on peut difficilement comprendre pourquoi on devrait, par exemple, reconnaître un district à sa piste cyclable pour donner un exemple un peu anecdotique. Mais sur le domaine de la sécurité, qui nous intéresse aussi spécifiquement aujourd'hui, là aussi, le collège communal, le bourgmestre actuel d'Anvers, qui sont assez focalisés sur la sécurité, veulent développer une politique qui lie la sécurité, le sentiment de sécurité à la manière dont on organise l'espace public, en fait. C'est aussi basé sur des études. Certaines façons d'organiser l'espace public vont renforcer ou diminuer le sentiment de sécurité ou vont attirer certaines activités criminelles ou problématiques, etc. Donc là aussi, à nouveau, il y a une vision globale là-dessus. Il y a les directives urbaines qui sont exécutées, hein, au niveau de tous les districts. Si là aussi, on renforcerait la compétence fondamentale des districts, des initiatives comme ça deviendraient plus difficiles. Même chose pour les plans de quartier pour circulation. Il y a là une initiative qui est normalement prise par les districts d'abord. C'est ensuite intégré dans les plans de circulation de la ville, plan qui lui-même est subdivisé en 8 zones qui, elles, ne correspondent pas au district. Donc ça rend les choses un peu complexes. Mais ça m'amène vers le dernier point qui est quand même assez crucial aussi et où il y a un lien aussi très clair avec Bruxelles. C'est que quand on regarde les frontières des districts actuels, c'est assez clair qu'il y a un mismatch entre les frontières actuelles, les limites des districts, les frontières administratives et le tissu socio-économique, la morphologie de la ville. Bon, l'explication est assez simple. Bien sûr, les frontières des districts sont basées sur les anciennes communes. Les anciennes communes sont basées sur des réalités où il y avait vraiment initialement des frontières physiques entre ces différentes communes. Il y avait des espaces entre, par exemple, Wilrijk et Hoboken, etc. Bon, entre-temps, bien sûr, il y a eu une dynamique d'intégration, d'urbanisation, d'intégration de la ville. Il y a de nouvelles barrières qui ont été créées, notamment les autoroutes, bien sûr, dans les années 60, comme le R1. Et par exemple, les districts de Borgerhout et de Berchem sont parcourus, coupés en deux par la R1, et on parle d'ailleurs souvent aussi de Borgerhout et Berchem intramuros, extramuros, et il y a donc aussi des nouvelles réalités, des nouvelles dynamiques qui se développent, qui se traduisent bien sûr aussi en problématiques de mobilité un peu différentes, etc. Donc il y a un grand problème quand même aussi de mismatch entre les frontières administratives et toute la réalité socio-démographique, socio-économique, notamment aussi au niveau du district d'Anvers, c'est assez clair. Enfin, comme vous l'avez vu, c'est un très grand district. Une partie de l'autre côté de Lescaut, ça inclut le centre-ville, le quartier nord, c'est tous des quartiers finalement quand même assez différents. Donc si on veut quand même décentraliser, c'est plus logique de faire ça sur la réalité d'aujourd'hui et pas sur la réalité d'il y a du siècle dernier, enfin non, même d'il y a deux siècles. Bon, je sais pas. Ah oui, donc je vais peut-être un peu vite passer là-dessus, parce que le vrai but des districts, c'était aussi moins d'aliénation politique, l'histoire du Vlaams Blok et tout ça. Bon, là aussi, on a quelques données, mais je vais pas en détail les parcourir ici. Mais là aussi, on peut pas vraiment dire que ces 15 dernières années, le fossé a vraiment été comblé. On pourrait dire, oui, mais le Vlaams Blok, entre-temps, est quand même moins fort. Oui, mais je crois que qu'il y a d'autres explications pour cela que la création des districts. D'ailleurs, en 2006, il est encore monté, en tout cas électoralement. Et entre-temps, il y a la dynamique NVA, etc. Donc, je ne crois pas qu'il y a vraiment un lien là. Il y a certains autres éléments qui pointent plutôt dans l'autre direction, mais je ne vais pas complètement les développer. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problème d'aliénation politique? Non, pas du tout. Donc, je crois que c'est un problème réel, mais je crois que l'idée de décentraliser, de dire il faut un niveau assez bas de gouvernance sur base du système représentatif, je crois que ça, c'est peut-être plus nécessairement une bonne réponse à un problème culturel et dynamique, parce que c'est une réponse assez institutionnelle et statique. Et là, et ça aussi, ça va m'amener donc vers la Cabousselois. Au lieu de répondre à ce problème avec un nouveau niveau de pouvoir, où on va aussi avoir des jeux partisans, des dynamiques, etc., qu'on connaît de tous les autres niveaux, moi, je plaide plutôt pour essayer d'avoir plus de participation politique, et notamment au niveau des quartiers. Donc, ça résoudrait aussi le problème dont je viens de parler, du mismatch, aussi autour de certains projets urbains, d'infrastructures, etc. Et là, c'est quand même intéressant de comparer Anvers à Gand. Donc, Gand n'a pas utilisé la possibilité de décentraliser. Mais Gand a beaucoup plus qu'Anvers misé sur la participation, notamment au niveau de 25 quartiers d'à peu près 18 000 habitants. Ils ont créé des directeurs et des communicateurs pour soutenir et coordonner cette participation. Des bureaux politiques locaux directement sous responsabilité du secrétaire municipal, donc une liaison directe entre les quartiers et la participation qui est organisée là et le niveau plus élevé de la ville. Donc c'est pas participation politique dans le sens, voilà, on va donner aux gens l'impression qu'ils peuvent décider ou qu'ils peuvent donner leur avis, mais finalement, ça n'arrivera jamais au niveau de la gouvernance de la ville. Et donc aussi des trajets de participation spécifiques pour des grands projets comme la réhabilitation des bassins portuaires. Bon, à Anvers, on a aussi un peu développé la participation, mais beaucoup moins, de façon beaucoup moins forte. Et on pourrait même faire l'analyse, peu d'accord ou pas, que, en fait, les districts sont plutôt un frein au développement d'une vraie participation politique qu'un stimulant. Bon, et alors, qu'est-ce que tout ça nous apprend pour Bruxelles ? Bien sûr, Bruxelles n'est pas Anvers, c'est assez clair. Il y a une dimension différente, il y a une complexité politique plus grande, il y a l'aspect communautaire, etc. Mais néanmoins, quand on regarde ce qui a amélioré la gouvernance dans des villes comme Anvers, hein, donc notamment quand je me base sur la commission de visitation, etc., qui a d'ailleurs fait des analyses similaires pour des villes comme Gand, quand on voit aussi qu'à Gand, en fait, il n'y a pas nécessairement, qu'à Anvers, l'aliénation politique est en fait moins forte qu'à Gand. Bon, ça peut aussi avoir avec d'autres éléments, mais en tout cas, ça montre que voilà, que les niveaux décentralisés ne sont pas nécessairement la panacée pour régler ce problème-là. Je crois que quelque chose qui serait quand même important à Bruxelles, hein, c'est de renforcer, de professionnaliser et d'intégrer la gouvernance urbaine au niveau de la région. Hein. Pourquoi la région ? Parce que la région est, on pourrait quand même dire, la dimension minimale correspondant là à la sociologie de la ville. D'ailleurs, quand on regarde parce que j'ai maintenant comparé avec Anvers pour rester dans le cadre belge, mais on pourrait aussi comparer bien sûr le cas de Bruxelles à d'autres villes comme Berlin ou Vienne, ou qui sont aussi en même temps des villes et des entités fédérées, hein, dans des États fédéraux. Là aussi, on voit que les deux niveaux sont largement intégrés, même s'il y a une décentralisation, mais qui, elle, ressemble quand même plus à celle d'Anvers qu'à celle de Bruxelles. Et donc, garder vraiment des communes avec beaucoup de compétences, je crois, est un obstacle pour la gouvernance globale et intégrée, comme ce serait aussi un obstacle à Anvers si l'on renforcerait les compétences. Je crois que c'est notamment le cas pour la politique de sécurité. Et donc là, je vois difficilement quels arguments on pourrait trouver pour garder, par exemple, 6 zones de police. D'ailleurs, même personnellement, je crois qu'une zone de police au niveau de la région, c'est même peut-être pas assez. Je constate que Vilvoorde fait intégralement partie aussi en termes de Sidestraders, etc. Je vois que le bourgmestre de Vilvoorde, Hans Bont, qui il y a quelques années encore disait il faut scinder l'arrondissement judiciaire de Bruxelles à Vilvoorde, parce que le problème de criminalité est complètement différent à Vilvoorde et à Bruxelles. Maintenant, et le Premier ministre et le gouvernement de sécurité nationale à dire que le niveau d'insécurité ou de menace à Vilvoorde reste au niveau 4, tandis que les écoles restent fermées, tandis qu'après, on décide la même chose pour Bruxelles. Hein, donc je crois que le grand problème dans tout ce débat, c'est d'essayer de penser out of the box, et donc aussi out of the limites communautaires, régionales, etc. Hein, donc plutôt que de demander pourquoi intégrer la zone de police au niveau de la région, je serais plutôt tenté de poser la question pourquoi que au niveau de la région. D'ailleurs, à Anvers aussi, maintenant, où il y a donc une zone de police, hein, mais c'est assez clair, les responsables politiques commencent aussi à dire, maintenant, avec tous les débats sur la sécurité, en fait, on devrait aussi agrandir la zone de police anversoise à beaucoup de communes avoisinantes. Hein, donc, il y a une même logique. Et donc, puisque, comme vous l'avez vu, je suis assez critique envers le modèle des districts à Anvers, bon, je crois que les districts ne font pas trop de mal, peuvent rester, mais je ne vois pas vraiment la plus-value, et je ne trouve en tout cas pas qu'il faut les renforcer. Pourtant, à Bruxelles, je crois que ce serait une chose excellente de créer des districts, parce que pour Bruxelles, je crois que ce serait un grand pas en avant. Hein, et que, voilà, c'est probablement pas nécessairement une... À Anvers, on aurait probablement aussi peut-être fait mieux, déjà dans les années 80, d'avoir ce qu'on a aujourd'hui, au lieu de d'abord tout abolir et ensuite recréer des trucs. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait avoir un modèle un peu similaire à long terme à Bruxelles ? Soit on transfère simplement des compétences des communes à la région et on laisse les communes en place. On pourrait aussi, puisqu'il y a ce dispositif qui existe à travers la Constitution, etc., on pourrait aussi faire la même chose qu'à Anvers, c'est débarrasser les communes et recréer des districts, mais je ne vois pas très bien pourquoi on devrait prendre ce détour de complexité. Donc je ne crois pas qu'il y a beaucoup de raisons pour faire ça. Donc, transfert des compétences des communes vers la région, mais pour les mêmes raisons, bien sûr, on peut aussi se poser des questions sur le rôle des communautés à Bruxelles. Là aussi, notamment en termes, sur certaines compétences, et là aussi, on l'a vu aussi dans tous les débats sur la radicalisation, etc. Je crois que, par exemple, en termes d'enseignement, il faudrait aussi pouvoir avoir une politique plus globale à Bruxelles. Est-ce qu'il faut nécessairement régionaliser complètement l'enseignement ? C'est une autre question, mais je crois qu'en tout cas, c'est plutôt la direction dans laquelle il faudrait aller. Alors, en même temps, comme je disais, je crois qu'il faut aussi, et c'est pour ça que j'ai aussi parlé de cet aspect participation, parce que tout le débat est maintenant à Bruxelles largement bloqué dans cette discussion de transfert de compétences d'un niveau à un autre, et pour les communes, contre les communes, et il y a bien sûr la dimension communautaire qui joue là-dedans de façon assez importante. Je crois qu'il faut un petit peu aussi sortir de cette logique-là et d'essayer de voir que rapprocher les citoyens de la politique, créer des structures efficaces et démocratiques, etc., ça passe pas toujours nécessairement par le répertoire de la démocratie représentative, la création d'encore un nouveau niveau de pouvoir ou le renforcement ou laisser en place des niveaux de pouvoir existants. Ça peut aussi passer à travers des répertoires nouveaux qui se développent aussi dans les autres villes internationales, en Europe, etc., d'approches vraiment plus participatives qui, je crois, pourraient créer une participation politique plus forte que le fait d'aller délire une fois tous les 6 ans son conseil de district ou son conseil communal. Et alors, j'en termine, comme vous le voyez, avec les 2 derniers points. Bien sûr, ce qui est très important, et au début de ma présentation, j'ai dit en 1983, déjà à Anvers, on sentait qu'il y avait un problème en termes de décentralisation. On sentait aussi qu'il y avait un problème en termes de gouvernance métropolitaine à Anvers, en fait. Malheureusement, on a réglé le premier problème, qui je crois n'aurait peut-être pas dû régler de cette façon-là. Le deuxième problème, on ne l'a pas vraiment réglé aussi pour des dynamiques politiques. Je vois que Barthevé maintenant plaide pour agrandir à nouveau Anvers, mais le premier à le critiquer, c'est les bourgmestres NVA de Brasschaert et de Edegem, etc. Donc c'est très difficile, c'est toujours plus facile de créer des nouveaux niveaux de pouvoir que d'enlever des niveaux de pouvoir, c'est assez logique. Mais donc cette dynamique-là doit aussi être intégrée dans tout ce débat, je crois, et je crois que c'est même beaucoup plus fondamental probablement. C'est le cas à Anvers, mais c'est le cas aussi à Bruxelles, parce qu'au moins Anvers, la région urbaine d'Anvers se situe complètement dans la région flamande, et donc il y a un ministre de la mobilité, donc ça s'est pas divisé. Mais à Bruxelles, le problème de la réalité métropolitaine est bien sûr beaucoup plus grand, dans le sens où quand on met les lunettes socio-économiques, on voit qu'il y a une région bruxelloise métropolitaine, mais qu'il y a 3 régions administratives qui ont des compétences importantes à ce niveau-là. Donc là, il y a quand même un vrai problème qui est un problème plus large. Moi, je plaiderais pour abolir les provinces et créer des régions urbaines autour des grandes villes. Mais le problème est bien sûr plus urgent à Bruxelles, où on a une logique, finalement, quand on y réfléchit de façon sociodémographique, assez bizarre, où on a coupé une région métropolitaine, finalement, en 3 avec 3 gouvernements différents. Donc il faut aussi réfléchir à cela, et j'en viens à ma dernière remarque, c'est que si l'on intègre tous ces débats, il y a moyen, à mes yeux, aussi de trouver un compromis politique, parce que d'un côté les communes c'est les francophones qui y tiennent, les communautés c'est plutôt les flamands, et notamment la zone métropolitaine c'est les flamands qui bloquent, donc on bloque des deux côtés sur d'autres éléments qui ensemble pourrait justement renforcer, quand on oublie aussi un petit peu cette lecture politique communautaire pourrait justement renforcer la gouvernance bruxelloise et donc aussi la gouvernance belge, puisque Bruxelles reste la capitale et que finalement le reste de la Belgique est largement organisé autour de Bruxelles, on peut dire. Donc il faudrait avoir une région plus forte dans une zone métropolitaine plus forte. Maintenant, je sais bien que la réalité des débats communautaires se situe aussi à un autre niveau. Il y a bien sûr la question des équilibres linguistiques au niveau de la région. Je crois que Pascal va en parler, donc j'en ai pas trop parlé. J'en ai aussi pas trop parlé parce que je voulais pas me concentrer trop sur les aspects de partisans ou de politique politicienne, de dire voilà comment est-ce qu'on pourrait trouver un compromis. J'ai plutôt essayé de me focaliser sur qu'est-ce qui serait bien pour avoir une meilleure gouvernance. Je crois qu'il y a un compromis politique possible là-dedans, mais voilà, je suis bien sûr aussi conscient des difficultés d'avancer dans cette direction. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Je rends votre place et alors je donne la parole à Pascal Dehuit pour une réplique. Alors tu n'as pas gagné du temps, mais comme on a débordé jusqu'à 23, si on a bien 25, moins 20.
Alors, je suis désolé, je m'emballe toujours quand je parle d'Anvers.
Ah oui, c'est vrai. C'est out of the box et out of the time.
Okay. Non, mais je vais essayer d'être...
Tu veux venir ici, Pascal?
Je vais essayer d'être assez bref, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants importants dans la salle. Juste une petite réflexion préalable. J'étais étonné qu'Anne-Emmanuel imaginait que Bruxelles aurait pu à un moment ronronner. Ça, je pense que c'était inimaginable. C'était inimaginable pourquoi ? Parce que dans la construction, et c'est important pour notre propos, dans la construction institutionnelle, dans la construction du fédéralisme, Bruxelles a été le point clé conflictuel et l'est toujours. Et donc, de ce point de vue-là, je ne vois pas comment elle aurait pu ronronner. Je crois qu'il y a deux autres raisons. Premier élément, c'est que Bruxelles, au moment où on la négocie, et on peut même prendre déjà les années 70 ou l'échec lors des lois d'août 80 et même la création de la région, n'est plus sociodémographiquement la même chose aujourd'hui. Et donc les défis et la gouvernance ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans ou il y a 25 ans. Et puis, il ne faut pas l'oublier, c'est une première réplique peut-être que j'apporterai à l'exposé de DEF, c'est qu'il y a une loi spéciale de financement. Et la manière dont Anvers est touchée par cette loi spéciale de financement et la manière dont Bruxelles est touchée par cette loi spéciale de financement n'est pas du tout la même. C'est une loi spéciale de financement structurellement défavorable à Bruxelles compte tenu de ce qu'est Bruxelles. Alors, à partir de là, on peut dire, on peut imaginer tous les scénarios possibles, hein, mais à titre personnel, je n'évacue jamais les moyens relativement aux fins. Et on doit toujours penser aux moyens. Et c'est une excellente idée d'avoir un séminaire sur la simplification de Bruxelles. Je dis néanmoins que dans un certain nombre de gens qui pensent et qui réfléchissent sur la simplification de Bruxelles, le regard sur les moyens est absent. J'ai parfois questionné des gens qui faisaient des propositions et je dis quel est l'ESF, donc loi spéciale de financement, vous adossez à ça, et qui ont dû me demander ce que c'était que la loi spéciale de financement. Donc voilà, je pense qu'on ne peut jamais séparer les objectifs que l'on se fixe aux moyens. Alors, quelques réflexions par rapport à ça, par rapport à Bruxelles, la comparaison avec Anvers et la question des zones de police. Or, premier élément, la question de la fusion possible des zones de police, moi, elle m'a été adressée pour la première fois il y a 2 mois, bien sûr, hein. Un jour, à peu près la moitié de la presse flamande m'a téléphoné pour demander si c'était une bonne idée de fusionner les zones de police. J'étais très étonné de la question, parce que ça avait affaire à des affaires relativement à des questions de terrorisme et de djihadisme, qui pour l'essentiel ne sont pas les compétences des zones de police, mais plutôt de la police fédérale, parce que ne l'oublions pas, en Belgique, il y a une police fédérale et il y a une police locale. Et donc, c'est quand même d'abord au premier chef le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur qui étaient concernés. Et deux, parce que même si on regardait les affaires de djihadisme, par exemple, il n'y avait pas une singularité bruxelloise qui ressortait. C'est-à-dire que si vous regardez le nombre de djihadistes et leur provenance, Bruxelles ne se démarque pas et même proportionnellement est moins importante, par exemple, qu'Anvers. Hein, et donc, j'étais vraiment étonné. J'y ajoute un élément qui n'est pas si anodin. c'est dans la logique de la zone de police communale ou locale ou zonale, il y a quand même l'élément de proximité, hein, et que on peut imaginer qu'à Anvers, il y a beaucoup de policiers issus d'Anvers. Il ne faut pas oublier qu'à Bruxelles, il y a un nombre très appréciable de policiers qui ne sont pas bruxellois, hein, et que ce n'est pas anodin de savoir qu'un nombre appréciable de policiers ne sont pas bruxellois dans une logique de proximité. Donc si vous créez une police régionale dans une logique de proximité avec une part substantielle de policiers qui ne sont pas bruxellois, ce n'est pas la même chose que si vous créez cette logique de proximité avec des policiers issus du terrain. Or, Bruxelles est compliqué, hein, institutionnellement compliqué. Hein, quand j'ai un cours la vie politique en Belgique, quand les étudiants tombent sur la question « Décrivez-moi le paysage institutionnel bruxellois hein, », c'est la question qu'ils détestent le plus. Et avant, la question qu'ils détestaient le plus, c'est l'arrondissement électoral de Bruxelles-Alvilvoir. Par chance pour eux, cette question est résolue aujourd'hui, bien qu'ils peuvent quand même tomber sur mais quel est le régime des électeurs dans les communes à régime linguistique spécial. Donc, bon, il paraît que je suis vache parfois. Donc, mais voilà, Bruxelles est compliquée, elle n'est pas compliquée, et le paysage institutionnel est compliqué. Il n'est pas compliqué parce qu'on a voulu faire compliqué, il est compliqué parce que la situation de Bruxelles est compliquée et qu'on a apporté des réponses qui ne sont pas nécessairement d'un point de vue intellectuel. Quand je dis nécessairement, elles ne sont pas, moi je crois qu'on peut affirmer, elles ne sont pas d'un point de vue intellectuel les meilleures pour un exercice parfait de la gouvernance dans les missions d'une région avec 19 communes et 6 zones de police. Elles ne sont pas les meilleures. Hein, si on peut même prendre des choses comme la culture, entre d'une part une délégation de la compétence très très partielle de la VGC, de la communauté flamande à la VGC, tout autre chose, vraiment tout autre chose pour la commission communautaire française, la COCOM, hein, si vous lisez les programmes des partis avant les élections avant les élections de 2010, pardon, ils nous annonçaient presque 2009-2010 la fin de la COCOM. Maintenant, c'est elle qui va gérer toutes les allocations familiales, donc un budget énorme. Elle double son administration. Donc voilà. Mais, je viens à un point qui est important, je crois, par rapport à l'exposé de Dave, et qui est important par rapport à la question des zones de police, c'est on apporte. Quelle est l'ambition, hein, et quelle est l'ambition et quelle est la question qu'on pose? Est-ce qu'on pose la question quelle est la meilleure gouvernance possible indépendamment des contraintes? Et les contraintes, elles sont nombreuses. Hein, Dave a parlé de la distinction entre les néerlandophones qui souhaitent plus aisément régionaliser et les francophones qui souhaitent plus aisément garder les compétences dans les communes. C'est vrai pour partie. C'est vrai pour d'autres raisons, mais c'est vrai pour parfois des raisons très compréhensibles, parfaitement compréhensibles. Il y en a d'autres. Hein, la question du financement en est une. La question du territoire. Hein, je suis très frappé, par exemple, que dans la réflexion sur la simplification de Bruxelles et la meilleure gouvernance de Bruxelles, on ne pose pas alors la question des limites. Parce que si on dit optimalement, d'un point de vue optimal, on doit arriver à régionaliser, on doit arriver à ceci ou à cela. Je n'ai pas lu un seul travail jusqu'à présent, en particulier des économistes et des géographes ou des sociologues qui disent que les 19 communes sont, entre guillemets, le territoire bruxellois, c'est-à-dire le territoire de développement économique, culturel, politique bruxellois. Hein, et même ceux qui sont hostiles, ils sont très nombreux, à l'extension des limites de Bruxelles, hein, très peu disent que c'est le territoire optimal. J'en vois très peu, je l'ai dit, hein, qui questionnent la possibilité d'introduire dans la loi spéciale de financement cette considération quand même très spécifique, et c'est pas anodin pour la question qui nous occupe en matière de sécurité, de mobilité, de sécurité. Mobilité et sécurité sont aussi partiellement liés d'ailleurs, hein, que le matin, des dizaines de milliers de gens rentrent dans la région et dans les communes et dans les zones de police, hein, et le soir, des dizaines de milliers de personnes en sortent. Hein, si vous regardez le tracé du métro qui quand même coûte assez cher à la STIP, hein, il est d'abord pensé historiquement pour les nafteurs. Hein, d'abord pensé, c'est pas un reproche, hein, mais il est agencé aux gares, hein, historiquement agencé aux gares, et pensé pour faire circuler de très nombreuses personnes dans un court laps de temps, à certains moments d'heure de pointe, hein, le soir ou le soir pour sortir, le matin pour rentrer. Ce n'est pas anodin pour la sécurité. Hein, ce n'est pas anodin pour la sécurité. Je ne pense pas que c'est les bourgmestres ou les responsables de zones de police. Donc voilà, je crois que la question qu'on doit se poser, je dirais, dans le cadre du séminaire, dans le cadre des zones de police, c'est mettons tout dans le débat, c'est-à-dire quel est l'optimum et on fait fi des contraintes institutionnelles ou quel est l'optimum et on intègre les contraintes institutionnelles, parce que si on revient sur la question du clivage communautaire, qui est une question réelle, hein, on peut aimer ou pas aimer, on peut dire c'est pas bien, c'est bien. D'après moi, c'est pas une question qu'un politologue doit se poser. La question, c'est est-ce que c'est un fait ou non. Mon observation sur Bruxelles, c'est que c'est un fait. C'est un fait dans le recrutement, c'est un fait dans le mode de fonctionnement, c'est un fait dans l'agencement des compétences entre régions et communes. Si on dit, on réfléchit à un nouvel équilibre des compétences entre la région et la commune, et ça peut concerner les matières de zone de police, mais je vais conclure par les zones de police, et qu'on ouvre en même temps, par exemple, le débat sur les majorités nécessaires à certains moments, hein, on dit parfois que la région de Bruxelles, c'est du mimétisme avec le fédéral, hein, c'est inexact, hein, c'est inexact au fédéral. D'ailleurs, on en a l'illustration pour l'instant, mais on en avait l'illustration la fois précédente aussi. Vous n'avez pas besoin d'une double majorité pour avoir votre majorité. À Bruxelles, vous avez besoin d'une double majorité. Hein, oui. On dit oui, mais je vous rappelle que cette simple double majorité, c'est-à-dire une majorité régionale et une majorité dans chaque rôle linguistique, fait ipso facto, vous pouvez regarder les résultats électoraux, hein, que 4 à 6% de l'électorat décide de un ministre et deux secrétaires d'État, ou deux ministres et un secrétaire d'État. Hein, et que, voilà, la majorité, hein, vous avez aujourd'hui à Bruxelles, au fédéral, c'est pas comme ça que ça se passe, hein, au lendemain d'élections régionales, de temps en temps, hein, on vous annonce un accord entre trois partis flamands. Voilà, c'est comme ça. Hein, moi, j'ai vu ça en 2009, j'ai vu partiellement en 2014, on vous annonce un accord entre trois partis flamands, et puis les partis francophones négocient. Oui, ça c'est la situation avec le cadre institutionnel bruxellois aujourd'hui. Hein, vous pouvez dire, je fais abstraction de ça, mais je ne vois nulle part ailleurs où on en fait abstraction. Dès vous avez fait un exposé sur Anvers, hein, quand vous connaissez l'histoire d'Anvers, moi je connaissais tout ça parce que Anvers était très importante à un moment relativement Vlaamsblok, Vlaamsbelang. Ben voilà, on vous dit, et c'est, vous comprenez bien pourquoi, hein, les élections dans le district, c'est au mode de scrutin, enfin au diviseur d'Hunt et pas au diviseur impérialiste. Parce que c'est mieux d'Hunt. Non, c'est pas mieux d'Hunt, ça dépend, on peut discuter, mais qu'impérialiste, c'est pas la question qui s'est posée. La question, c'est comment je peux éviter qu'éventuellement le Vlaamsblok, puis le Vlaamsbelang, décroche une majorité absolue. Donc il y avait eu un débat intellectuel sur est-ce qu'on essaie d'être dans une logique qui dégage une majorité, alors je prends impérialiste. Est-ce que je suis dans une logique qui est une photo de la gouvernance, alors je dégage d'Hunt? Non, on a dit, comment je peux faire pour éviter éventuellement une majorité absolue? Alors, on a des cas comme ça à Bruxelles. Hein, pourquoi est-ce que le groupement de liste est permis aux élections régionales à Bruxelles? On ne s'est pas dit, ah, c'est une bonne idée intellectuellement d'avoir un groupement de liste. Hein, ce n'est pas du tout ça qu'on s'est dit. On s'est dit, à un moment, compte tenu de ce que je vous ai dit, il est possible qu'à un moment, le Vlaamsblok, puis le Vlaamsbelang puisse avoir la majorité absolue à lui tout seul. Comment est-ce qu'on peut l'éviter, hein? Et pour l'éviter, on a mis en place le principe du groupement de liste, c'est-à-dire la dévolution des sièges en deux étages, d'abord le groupement de liste et puis dans les partis, qui pouvaient éventuellement empêcher une majorité absolue. Donc il n'y avait rien d'intellectuellement pensé par rapport à la gouvernance ou pensé par rapport à un système institutionnel, c'était simplement une mesure ad hoc. Voilà, pour ne pas être trop long et pour vous laisser la parole, je termine sur la question de la fusion des zones de police en quelques instants. Je trouve que le débat est ouvert. Mais, moi, ce qui me frappe dans le débat, C'est qu'à ce stade, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question, mais fatalement, comme j'ai été sollicité, que quand même on doit réfléchir à ça, il faut faire attention. Je n'ai pas vu une et une seule étude qui établirait, et peut-être que c'est possible, hein, donc je n'ai pas de religion à la question, qui établirait, un, que c'est plus pertinent de le faire au niveau régional qu'en 6 zones de police, hein, je n'ai pas vu d'études en la matière, et deux, que la construction en zone de police aurait été un problème très particulier par rapport aux questions qui nous ont occupées depuis 4-5 mois, le djihadisme, le départ, le terrorisme. Hein, je ne vois pas en quoi le fait qu'il y aurait eu une zone bruxelloise plutôt que 6 zones aurait éventuellement permis d'éviter un certain nombre de choses. Je ne dis pas que c'est le cas, hein, donc un, je ne suis pas un spécialiste, deux, ce travail mérite d'être mené. Ce qui me frappe néanmoins, même si la tonalité a changé par la suite, c'est que en première approche, quand vous regardez la répartition des compétences entre le niveau fédéral et le niveau local en termes de police, hein, ce qui nous a occupé est plutôt un niveau de compétence du niveau fédéral. Voilà, Anne-Emmanuel. Merci.